VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 20 septembre 2023, en direct de Washington, Idrissa Sidoulia. Pour commencer les titres, discours hier du président américain Joe Biden et d'autres dirigeants du monde à l'Assemblée générale de l'ONU, nous aurons notre envoyé spécial à New York, Alexandrine Ollognon. En Libye, communication coupée à Derna sur fond de grogne après les inondations. Au Burkina Faso, vote d'une loi autorisant l'envoi de soldats au Niger. Pour l'Union européenne et les États-Unis, la vigilance est de mise quant à la présidentielle à Madagascar. 5 Américains libérés par l'Iran sont rentrés hier aux États-Unis. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Poursuite aujourd'hui à New York de la 78e Assemblée générale des Nations unies, dont le débat général annuel s'est ouvert officiellement hier. Une occasion pour les dirigeants mondiaux de partager leurs solutions et leurs visions concernant certains des plus grands problèmes auxquels l'humanité est confrontée. Le compte-rendu de cette journée avec notre envoyé spécial Alexandrine Ollognon.
Plusieurs dirigeants se sont succédés ce mardi à la tribune des Nations Unies et nombre d'entre eux se sont concentrés sur la nécessité urgente d'améliorer la vie de millions de personnes dans leurs pays respectifs et à travers le monde. Le président américain Joe Biden a mis l'accent sur l'action climatique, mais aussi sur les questions sécuritaires et il n'a pas manqué de revenir sur la menace djihadiste et les coups d'État en Afrique de l'Ouest et tout récemment en Afrique centrale. Joe Biden a rappelé son engagement pour la démocratie et le respect des règles constitutionnelles et s'est dit prêt aux côtés de l'Union africaine et de la CEDEAO. Le président nigérien Bola Tinubu, en tant que président de la CEDEAO, a dit chercher à aider à rétablir une gouvernance démocratique au Niger afin de relever les défis politiques et économiques auxquels la nation est confrontée, y compris les extrémismes violents. À cet égard, le président nigérien a dit tendre la main de l'amitié à tous ceux qui soutiennent sincèrement cette mission, invitant le reste du monde à marcher avec nous comme de véritables partenaires. Outre cet aspect, la guerre en Ukraine a été au centre des débats. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, présent à New York, a notamment accusé Moscou de se servir de l'alimentation et de l'énergie comme d'une arme. Il a encore invité les dirigeants de la planète opposés à l'agression russe à l'aider à préparer un sommet de la paix. On note également l'intervention ce mardi du président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a dénoncé les milliards de dollars consacrés à la guerre plutôt qu'au développement, tout en renouvelant son appel à la diplomatie en Ukraine. Le débat général se poursuit ce mercredi avec des pays comme la RDC, la Mauritanie ou encore la Libye, dont l'Est a été ravagé récemment par des inondations qui ont fait des milliers de morts.
Merci Alexandrine, et comme elle l'a dit, c'est aujourd'hui que le président Félix Tshisekedi doit prendre la parole à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale de l'ONU. Hier, lors d'un déjeuner de presse, il a déclaré que les élections auront lieu sans aucun doute avant la fin de l'année en cours. Le point avec Eddie Isango.
Le président Félix Tshisekedi, répondant à un journaliste, a dit qu'il n'a constaté aucun pessimisme de la part des partenaires quant à la tenue des élections, comme certains le prétendent. Il a affirmé au contraire que les États-Unis, la France et d'autres encouragent les processus électoraux en cours qu'il voudrait tout de même inclusifs. Il a par ailleurs insisté qu'il n'y a jamais eu collusion avec son prédécesseur pour falsifier les précédentes élections qu'il a remportées. Il a cité pour preuve des collaborateurs de l'ancien président Joseph Kabila, avec qui il avait plutôt conclu une alliance de gouvernance, car son parti était majoritaire au Parlement à l'époque. Mais ce Tshisekedi s'est montré certain de remporter les élections qui se tiendront en décembre. Mais des opposants dénoncent des manœuvres qui tendent à les exclure du scrutin.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les communications ont été coupées mardi dans la ville libyenne de Derna, touchée par les inondations, et les journalistes ont été priés de quitter les lieux après les manifestations de colère contre les autorités accusées d'être responsables de la mort de milliers de personnes. Michel Joseph fait le point.
Les liaisons téléphoniques et Internet fournies par les deux opérateurs libyens ont été coupées à Derna depuis hier matin. Les autorités ont demandé à la plupart des journalistes de quitter la ville et de rendre les autorisations pour couvrir la catastrophe. Auparavant, des centaines de manifestants s'étaient massés devant la grande mosquée pour exprimer leur colère contre les autorités accusées de ne pas avoir entretenu les barrages ou de n'avoir pas donné l'alerte. Les secouristes ont continué à chercher des corps, le bilan officiel s'élevant à 3351 morts et plusieurs milliers de disparus. Des dizaines de milliers d'habitants sont sans abri, manquent d'eau potable, de nourriture et de produits de base. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'ouverture hier de l'Assemblée générale, a déclaré que Derna est un triste instantané de l'état de notre monde, l'inondation de l'inégalité, de l'injustice, de l'incapacité à faire face aux défis qui se posent à nous.
Au Burkina Faso, les députés ont adopté le projet de loi autorisant l'envoi d'un contingent militaire burkinabé au Niger. Ce projet a été adopté à l'unanimité des 71 votants. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Cette loi adoptée par le Parlement et qui permet l'envoi d'un contingent militaire au Niger permettra, selon l'Assemblée, de mutualiser les capacités et aptitudes pour faire front commun contre le terrorisme. Toujours selon le communiqué du Parlement, elle participera sans aucun doute au raffermissement des liens de fraternité et de solidarité entre le Burkina Faso et la République du Niger. Mais le ministre de la Défense a été clair. En cas d'agression militaire du Niger par la CDAO, les forces burkinabées déployées réagiront en conséquence. La durée de la mission du contingent burkinabé sera de 3 mois renouvelables, précise l'Assemblée. C'était fin août que le gouvernement a autorisé l'envoi de ce contingent au Niger. Selon le gouvernement, cette décision entre en droite ligne des engagements stratégiques du pays. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
L'Union européenne et les États-Unis ont déclaré hier suivre avec la plus grande vigilance la préparation de l'élection présidentielle prévue début novembre à Madagascar. Une semaine après que 10 des 13 candidats ont dénoncé ce qu'ils ont appelé un coup d'État institutionnel en cours dans le pays. Jacques Aristide.
Dans un communiqué commun, l'Union européenne, l'ambassade des États-Unis et d'autres représentations diplomatiques appellent un scrutin transparent, fiable, inclusif et apaisé, rappelant leur attachement aux droits de réunion et de manifestation pacifique. Les Malgaches se rendent aux urnes le 9 novembre pour choisir leur président et leur gouverneur. 13 candidats sont en lice, dont le président sortant André Radzuel et l'ancien président Marc Ravalomanane. Durant cette période, l'intérim doit être assuré par le président du Sénat qui a refusé, invoquant des raisons personnelles. La Haute Cour constitutionnelle a nommé un gouvernement collégial dirigé par le Premier ministre Christian Tsai, proche du chef de l'État. C'est un véritable coup d'État institutionnel pour manipuler les résultats, ont dénoncé 10 candidats. Lundi, 40 organisations de la société civile ont demandé à la Haute Cour de revenir sur sa décision et de nommer le président du Sénat, appelé pour sa part à prendre ses responsabilités. Un second tour de la présidentielle est prévu le 20 décembre si aucun candidat ne recueille plus de 50% des voix au premier tour.
Par ailleurs, l'Union européenne a annoncé hier son intention de suspendre son aide financière à la commission électorale du Zimbabwe moins d'un mois après la réélection du président Emmerson Mnangagwa au terme d'un scrutin jugé non conforme par les observateurs internationaux. L'UE fait part de soucis liés à l'indépendance et à la transparence. En Côte d'Ivoire, le bilan d'une mystérieuse maladie dans le village de Nyanga, proche de Boaké, s'est alourdi lundi, passant de 7 à 9 morts après le décès de 2 autres enfants, a-t-on appris mardi auprès de villageois et de sources hospitalières. Et sur les 59 personnes hospitalisées depuis dimanche au CHU de Boaké, 50 sont rentrées au village. Pour l'heure, on ignore toujours les origines de la maladie. Mais selon une source à l'hôpital, toutes les personnes hospitalisées et les enfants décédés avaient consommé le même aliment de la bouille de maïs. En février, dans le village de Pko Karankro, également proche de Boaké, deux personnes avaient été condamnées à 5 ans de prison après une contamination au Clostridium bactérie qui avait fait 16 morts selon un bilan officiel, 21 selon les villageois. 5 Américains, dont un qui était détenu par l'Iran depuis 8 ans, sont rentrés mardi aux États-Unis grâce à un accord entre Washington et Téhéran, facilité par le déblocage de 6 milliards de dollars de recettes pétrolières iraniennes gelées. Le secrétaire d'État Anthony Blinken, en se félicitant lundi de la libération de ses concitoyens, avait justifié à nouveau l'accord avec Téhéran, très critiqué ici aux États-Unis par l'opposition républicaine. La Minute Éco, John Linden.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé lundi la suspension à titre conservatoire de l'exportation du riz local et du sucre. Selon Financial Afrique, cette mesure, qui concerne notamment les importateurs et les exportateurs, s'étendra du 18 septembre au 31 décembre 2023. Au Cameroun, sur les plus de 776 milliards de francs CFA générés par les industries minières en 2021, un peu plus de 589 milliards de francs CFA ont été reversés au trésor public, soit une hausse de 60 milliards de francs CFA par rapport à l'exercice 2020, au terme duquel quelque 535 milliards de francs CFA avaient atterri dans les caisses de l'État. Le géant américain du café Starbucks a ouvert mardi près de Shanghai en Chine un parc d'innovation ouvert au public pour un budget de 220 millions de dollars. Starbucks compte plus de 6500 magasins dans plus de 250 villes chinoises et assure qu'une nouvelle boutique ouvre dans le pays toutes les 9 heures.
Merci John. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Mondial de rugby pour commencer avec la Namibie qui retouche son effectif pour affronter la France.
Oui, le sélectionneur de la Namibie, Alistair Kouitsi, a opéré 9 changements dans son équipe de départ par rapport à celle lourdement battue 71-3 par la Nouvelle-Zélande pour affronter la France demain à Marseille. Lors de la 3e journée, seul le demi d'ouverture Cliven Loopser, l'ailier Jerswin Mouton, le pilier Johan Kouitsi, les 3e ligne Johan Retif et Prince Gaudzep et le capitaine Johan Dessel conservent leur place de titulaire selon la composition dévoilée hier à Marseille. Loopser a été l'un des 2 seuls joueurs de son équipe à réussir un franchissement face aux All Blacks. La semaine dernière, avec 5 courses ballon à main, il a battu 3 défenseurs, le record de son équipe sur ce match. En 7 participations à la Coupe du Monde, la Namibie n'a jamais remporté aucun match.
En Europe, suite des matchs de la Ligue des Champions ce soir.
Même si Manchester United, du portier camerounais André Onana, est en petite forme, son match contre le Bayern Munich ravive le souvenir d'une mythique finale de Ligue des Champions et domine la journée de poule d'aujourd'hui. Les 2 outsiders du groupe Galatasaray et le FC Copenhague sont à l'affiche de l'autre rencontre du groupe. Après 6 ans d'absence, Arsenal retrouve la Ligue des Champions et ouvre sa nouvelle campagne à l'Emirates Stadium contre le PSV Eindhoven. L'autre match du groupe A oppose le FC Lens et le FC Séville. L'Union Berlin, qui participe pour la toute première fois à la Ligue des Champions, rencontre le Big, le Real Madrid, qui aborde sa 54e édition. L'autre gros bonnet du groupe, le Napoli du Nigérian, Victor Osimhen et du Camerounais, Frank Zambo Anguissa, se présente un peu barbouillé à Braga. L'Inter Milan fait face à la Real Sociedad. L'autre rencontre oppose 2 des meilleurs centres de formation au monde, Benfica et le RB Salzbourg.
Entrée en matière réussie hier par le tenant du titre.
Manchester City a mis une mi-temps pour prendre la mesure de l'étoile rouge de Belgrade. 3-1, le Paris Saint-Germain a réussi son entrée en battant le Borussia Dortmund 2-0. Demi-finaliste de la saison dernière, l'AC Milan n'a pas réussi à abattre la digue de Newcastle 0-0 malgré une outrageuse domination. Le FC Barcelone lui a su faire parler la poudre et a sévèrement bizouté le Royal Antwerp, corrigé 5-0 au Camp Nou pour son premier match dans la compétition. Le Brésilien Galeno a réussi un doublé dans l'autre match de groupe pour la victoire du FC Porto contre le Shakhtar Donetsk, battu 3-1 à Hambourg, où le club ukrainien reçoit pour ses matchs européens. Le gardien de la Lazio Rome, Ivan Provedel, a égalisé à la dernière seconde pour permettre à son équipe d'arracher le nul contre l'Atlético Madrid. 1-0.
Merci.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies, 32 pays comprenant les États-Unis et 15 nations africaines ont initié le partenariat pour la coopération atlantique. Pour comprendre l'objectif que vise ce nouveau forum, Eric Manirakidza a joint à New York Johan Smonsi, porte-parole du département d'État et directeur du Centre médiatique régional pour l'Afrique.
Le partenariat pour la coopération atlantique a deux objectifs principaux. Premièrement, unir la communauté des États atlantiques autour d'un cadre pour s'engager plus efficacement avec l'un avec l'autre. Et deuxièmement, articuler un ensemble de principes directeurs pour la coopération atlantique, comme indiqué dans la déclaration de la coopération atlantique qui a eu lieu hier.
Quelle est la différence entre ce partenariat pour la coopération atlantique et les forums multilatéraux existants? Quelle contribution spécifique ce nouveau partenariat apportera-t-il en termes de richesse ou de bénéfice?
Bon, il y a plusieurs aspects qui sont nouveaux dans ce partenariat. Pour une chose, le partenariat pour la coopération atlantique est le premier groupement atlantique à inclure à la fois l'Atlantique du Nord et l'Atlantique du Sud et aborder un large éventail de questions sur les priorités communes à ces pays variés. Le partenariat aussi vise à ouvrir un nouveau chapitre dans la coopération régionale, notamment en matière de développement durable et aussi sciences et technologies.
Y a-t-il des raisons particulières pour lesquelles des pays tels que la France, le Cameroun, la Namibie et l'Afrique du Sud n'ont pas rejoint le partenariat pour la coopération atlantique, suggérant ainsi des désaccords ou des préoccupations potentielles à résoudre avant leur adhésion, ou bien ce partenariat est-il remis en question comme un forum superflu?
Je peux préciser que les États-Unis et les autres partenaires dans le partenariat continuent à identifier d'autres domaines de coopération pour le partenariat, et aussi nous essayons d'élargir et inviter d'autres pays membres pour faire partie de ce partenariat. Notre engagement à travailler avec les partenaires comprend aussi les autres bases multilatérales comme le traité sur la haute mer, et on a signé ça pendant cette semaine de l'Assemblée générale. On prévoit signer le traité plus tard cette semaine. On a toujours en tête de élargir et inclure le maximum de pays possible.
Et ce partenariat est censé créer combien de millions d'emplois?
Bon, il est difficile de prévenir maintenant les possibilités de croissance économique, etc., création d'emplois, mais il est certain qu'on va préserver les ressources naturelles, les modes de vie, et aussi promouvoir une croissance économique durable et responsable, qui est, par exemple, un des objectifs de développement durable auxquels on fait référence plusieurs fois cette semaine de l'Assemblée générale.
Johan Schumann-Sies, porte-parole du département d'État et directeur du Centre médiatique régional pour l'Afrique. Alors que l'on craint que les objectifs de développement durable ne soient pas sur la bonne voie, les dirigeants du monde entier réunis à l'Assemblée générale des Nations unies à New York ont adopté lundi une déclaration politique qui devrait donner de l'espoir aux pays en développement. Précision de Veronica Balderas Iglesias aux Nations unies à New York, récit de John Linden.
Par une journée pluvieuse à New York, l'Assemblée générale des Nations unies a rappelé que les dirigeants du monde entier ont pris du retard dans la réalisation des 17 objectifs de développement durable qu'ils ont adoptés en 2015 et qu'ils espéraient atteindre d'ici 2030. Denis Francis, président de l'Assemblée générale des Nations unies.
Malgré les engagements d'éradiquer la pauvreté et de réduire la faim qui sont au cœur de cet agenda, il est alarmant de constater que 1,2 milliard de personnes vivaient encore dans une pauvreté multidimensionnelle en 2022. On estime qu'environ 8% de la population mondiale, soit 680 millions de personnes, seront encore confrontées à la faim en 2030.
Les jeunes leaders se sont également inquiétés de l'absence de progrès dans la réalisation des objectifs de développement durable, ODD, réclamant des mesures pour lutter contre le changement climatique et des solutions concrètes pour donner à leur génération les moyens d'agir. C'est ainsi que Mayada Adil, une jeune leader qui tient aux objectifs de développement durable, l'a expliqué.
68 million young people are looking for jobs.
68 millions de jeunes sont à la recherche d'un emploi dans le monde entier. Des millions de jeunes ne peuvent pas accéder à une couverture sociale. Les problèmes de santé mentale comme la dépression et l'anxiété sont en outre une grave préoccupation pour les jeunes.
For young people.
Les dirigeants du monde ont réussi à adopter lundi une déclaration politique qui apporte une lueur d'espoir aux économies en difficulté, a déclaré le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.
Cela inclut un soutien clair à une stimulation des ODD d'au moins 500 milliards de dollars par an, ainsi qu'un mécanisme efficace d'allègement de la dette qui soutient les suspensions de paiement, des durées de prêt plus longues et des taux plus bas.
Selon Antonio Guterres, les pays peuvent contribuer à remettre les ODD sur les rails en prêtant attention à 6 domaines ciblés, notamment la lutte contre la faim, l'égalité des sexes et l'amélioration de l'éducation.
Notre proposition de pacte mondial pour le numérique aidera également les pays à mettre en place des systèmes numériques sûrs qui offrent un accès à l'Internet pour tous, y compris pour les étudiants des communautés difficiles à atteindre.
Antonio Guterres a également mis l'accent sur une autre initiative qui vise à créer 400 millions de nouveaux emplois, en particulier dans les secteurs de l'écologie, des soins et du numérique. Il a d'autre part souligné que les pays doivent agir maintenant pour sauver les objectifs de développement durable.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Mali, 5 soldats maliens ont été tués et 11 autres portés disparus après l'attaque dimanche de 2 camps militaires à Léré, au sud-ouest de Tombouctou, a indiqué l'armée malienne, qui indique avoir perdu un avion. La coordination des mouvements de l'Azawad, une alliance de groupes armés par les Touaregs, a revendiqué l'attaque. Idriss Fall a joint notre confrère cher Sekou Maïga, directeur de radio à Nyanfouké, proche de Léré.
Ce qui s'est passé à Léré est difficile à raconter parce que même les populations qui vivaient à l'intérieur de Léré-Ville, même le dimanche aux alentours de 15h28-15h30, vu l'intensité des combats, tout le monde était serré chez lui. Impossible pour un habitant de mettre la tête dehors, sauf quelques curieux qui souvent regardent vers le ciel. Et tous les bruits se dirigeaient du côté donc des deux camps, le camp militaire et le camp des gardes. Même après les combats, parce que la ville était complètement dans le noir, et puis dans la soirée, les gens ont fait également des réseaux. C'était impossible jusqu'au lundi matin, lorsque nous avons pu joindre quelques responsables de cette localité qui nous ont dit effectivement, les combats ont été rudes, vraiment beaucoup de décès. Les gens ont finalement été enterrés. Même aujourd'hui, mardi, il y a eu en tout cas des corps de certains hommes qui ont été enterrés. Le lundi matin, l'armée malienne et puis certains de ses alliés étaient en train de patrouiller donc au niveau de l'Éré. Mais ce qui est certain, en termes de bilan, on peut parler de peur, on peut parler de panique, on peut également parler de déplacés parce que toutes les boutiques de l'Éré en ce moment donc sont fermées. Et pour certains habitants que nous avons pu joindre aujourd'hui, ils nous ont dit même pour avoir du lait et du sucre, il est difficile de l'avoir car beaucoup de ces commerçants ont vu des difficultés.
Mais l'armée vient d'avancer un bilan de 5 soldats tués, un avion perdu et 36 terroristes abattus.
Mais nous croyons à ces informations parce que ça vient de notre armée nationale. Mais ce qui est certain, il y a eu quand même des décès. Il y a également vraiment des historiques. Je cherche des défauts. Mais il est impossible de donner un réel bilan. D'autant plus que la communication est complètement difficile avec les populations et aussi ces populations qui sont tirées chez elles de peur qu'il y ait aussi un retour de ces groupes armés en direction de la ville de Beni.
Est-ce que les rebelles contrôlent la ville ou bien les rebelles ont été repoussés ou bien les rebelles sont partis d'eux-mêmes?
Il est impossible pour moi de vous dire exactement comment ils sont sortis. Ce qui est certain, selon beaucoup de mes témoins, les rebelles sont rentrés en ville. Ils ont été aperçus en ville. Mais avant le matin, aucun d'entre eux n'était visible à part les soldats maliens qui étaient en train de patrouiller dans les villes et dans la ville de Géré. Et ensuite, ils étaient en train de pouvoir donc essayer de regarder dans le coin et au coin de cette ville s'il n'y a pas encore d'autres rebelles qui sont cachés dans les alentours, soit de pouvoir faire un ratissage. Mais ce qui est certain, lors des combats entre 15h30 jusqu'à 19h, il était pratiquement impossible pour chacun de mourir de pouvoir savoir exactement ce qui se passe. En termes de bilan, je vous le dis encore une fois, il m'est très difficile de vous dire combien de personnes sont mortes dans cette situation. Des cadavres ont été enterrés à l'air et ceci dans la bouche, des cadavres qui sont un peu partout du côté de l'air.
Notre confrère cher Sekou Maïga, directeur de radio à Nyanfunke, proche de l'air et dans le sud-ouest du Mali.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
La Maison-Blanche se félicite du retour de 5 Américains d'origine iranienne détenus par le gouvernement iranien et libérés dans le cadre d'un accord qui libère 6 milliards de dollars de fonds restreints dus à l'Iran. Mais Téhéran reste inflexible quant à l'utilisation qu'il compte faire de cet argent. Ses détracteurs estiment que l'accord revient à payer une rançon à un régime de plus en plus autoritaire. Anita Paul fait le point. Le récit est de Yacouba Ouedraogo.
5 Américains d'origine iranienne détenus depuis des années dans la prison d'Evin sont enfin libres. Le président Joe Biden affirme qu'ils sont innocents des accusations liées à l'espionnage. Son administration s'est félicitée de cette nouvelle. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain.
Today, their freedom.
Aujourd'hui, leur liberté, la liberté de ces Américains injustement emprisonnés et détenus en Iran depuis si longtemps, signifie des choses assez fondamentales. Cela signifie que les maris, les femmes, les pères et les enfants, les grands-parents peuvent à nouveau se serrer dans les bras les uns des autres, se revoir, être ensemble.
Ils sont arrivés lundi à Doha au Qatar en échange de la libération par les États-Unis de 6 milliards de dollars de recettes pétrolières iraniennes qu'ils avaient gelées dans une banque sud-coréenne en raison des sanctions. Les détracteurs de Téhéran affirment que le régime pourrait utiliser cet argent pour poursuivre son oppression et ses ambitions nucléaires. La Maison-Blanche souligne que cet argent est assorti de restrictions sévères. John Kirby, porte-parole du Conseil national de sécurité.
Ces fonds seront désormais soumis à davantage de restrictions juridiques qu'ils ne l'étaient lorsqu'ils se trouvaient en Corée. Si l'Iran tente de détourner ces fonds, nous prendrons des mesures et les bloquerons à nouveau. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un paiement de quelque nature que ce soit. Il ne s'agit pas d'une rançon. Il ne s'agit pas de l'argent des contribuables américains. Et nous n'avons pas levé une seule de nos sanctions contre l'Iran.
Le président iranien affirme que son gouvernement dépensera l'argent là où il en aura besoin. Selon les analystes, cet accord va au-delà de la libération des prisonniers et du gel des avoirs. Il intervient au moment même où des dirigeants du monde entier, dont le président iranien Ebrahim Raisi, rejoignent M. Biden à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies. Nicolas Carl effectue des recherches sur le Moyen-Orient dans le cadre du projet Critical Threat de l'American Enterprise Institute.
Il fait aussi partie d'un accord qui vise à réaliser des progrès diplomatiques en vue de contenir le programme nucléaire iranien et d'accélérer une désescalade plus large entre l'Iran et les États-Unis dans l'ensemble du Moyen-Orient.
Dans un communiqué, Joe Biden a déclaré qu'il continuerait à imposer des coups à l'Iran pour ses actions provocatrices dans la région. Par ailleurs, la Maison-Blanche a indiqué séparément qu'il a tenu lundi matin un appel émotionnel avec les familles des otages.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Au micro, Idrissa Sevudia, à la console Kelvin Fowler et à la mise en onde, Michel Joseph. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.